Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Je ne sais pas quel est le plus long séjour que vous ayez fait à l'hôtel, Mathieu, mais j'imagine que comme tout le monde, ça ne doit guère dépasser une ou deux semaines d'affilée.
Ah oui.
Eh bien, c'est toute la différence entre vous et Coco Chanel. Parce qu'avant d'y mourir en 1960, il y a plus d'une différence, oui, je
oui,
sais.
C'est ça.
Mais parce que avant que d'y mourir en 1971, Mademoiselle aura tout au long de sa vie passé une trentaine d'années au Ritz, c'est-à-dire pas tout à fait n'importe quel hôtel non plus.
Oui.
Un palace est l'un des plus beaux de Paris, Place Vendôme. Le plus curieux, c'est qu'elle n'avait pas vraiment le profil pour vivre au Ritz, Coco Chanel. Coco, plutôt, Gabrielle Chanel. Née à Saumur en 1883, Gabrielle est la fille légitime d'un père camelot qui a très vite disparu du paysage et d'une mère qui la laisse orpheline et pauvre à 12 ans. Sa chance, elle l'a saisie à 18 ans à Moulins, où elle trouve une place de modiste dans une mercerie. Elle monte aussi sur les planches de la Rotonde, le café-concert local, un beuglant, comme on dit dans l'argot des années 1900. Elle y chante quelques standards de son temps, dont un grand succès des chansonniers de l'époque, « Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro ?» comme le chante Audrey Tautou dans le film « Coco avant Chanel ».
J'ai perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore, tout près du Trocadéro. Il est loin, s'il court encore, je l'avoue, mon fou grand gré. Dans ma perte aussi cruelle, c'est que plus mon homme me trompait, plus Coco m'était fidèle. Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro.
C'est génial cette chanson, je la veux.
Les officiers adorent évidemment Mathieu et Gabrielle ne tarde pas à se faire baptiser Coco, un surnom qui la suivra toute sa vie. À Moulins, Coco vit aussi plusieurs histoires d'amour avec des hommes plutôt aisés. À leur contact, elle se prépare à intégrer une haute société qui lui était jusque-là totalement étrangère. C'est un Anglais, Boy Capel, l'amour de sa vie, qui lui avance les fonds pour ouvrir en 1910 sa première boutique de mode en plein Paris, au 21 de la rue Cambon, en plein cœur du quartier de l'élégance, du luxe, de la mode et des arts, à deux pas du Ritz et de la place Vendôme. Elle y vend des chapeaux, ses toutes premières créations. Au fil du temps, Chanel s'agrandit. Quelques années plus tard, Mademoiselle Chanel emploie déjà 300 ouvrières et rembourse Boy Capel, bien décidée à ne jamais dépendre de personne. Très vite, elle crée son style, un style qui sait sentir l'esprit d'un siècle où les femmes commencent à se libérer, notamment à travers leurs vêtements ou leurs coiffures, comme cette coupe à la garçonne que Chanel adopte fièrement. Coco Chanel invente une mode qui s'inspire du sport, décontractée mais élégante, des tenues associant cardigans et pantalons qui libèrent les femmes du bustier, des corsets et des chapeaux surchargés. Pour la créatrice, l'élégance du vêtement, c'est la liberté de bouger. L'écrivain Paul Morand, quant à lui, écrit qu'elle est l'ange exterminateur du style 19e siècle. Ça fait scandale, Mathieu. Rendez-vous compte. Il arrive même qu'on aperçoive l'ombre d'une cheville d'une femme qui s'habille en Chanel.
Oh non, pas une cheville, Stéphane.
Mais Coco Chanel s'en moque et impose sa marque, à la fois élégante et hors du temps, parfois d'une simplicité folle. Il suffit de songer à la petite robe noire dessinée en 1926 et iconique. Dieu sait qu'elle a, fait jaser avec ce fourreau presque trop simple et cette couleur qui est celle réservée au deuil. Mais Dieu sait aussi que tout le monde l'aura copié sans jamais l'égaler, la petite robe noire. Et c'est loin d'être le seul modèle emblématique de chez Chanel. C'est elle qui invente les faux bijoux, elle qui imagine le sac en bandoulière parce que elle en avait assez de perdre le sien. Elle encore qui associe en 1920 son nom à un parfum immortel, le célébrissime numéro 5, un chiffre qui fait allusion au cinquième échantillon que son nez, le parfumeur Ernest Beau, avait proposé à Chanel. Pour la première fois, le monde de la mode et celui du parfum se rejoignent pour créer l'un des plus gros succès de l'industrie mondiale du luxe. Pourtant, les années 30 ne sont pas faciles pour Chanel. La concurrence s'aiguise et elle est frappée par une suite de drames et de ruptures. Alors, Coco fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle se réfugie dans le travail et passe sans cesse de son atelier de la rue Cambon au Ritz Place Vendôme. Elle semble préférer l'hôtel à ses propres appartements situés au deuxième étage, au-dessus de la boutique et de l'immense salon où se font les essayages. En 1935, Coco Chanel décide de s'installer pour de bon dans une des suites de l'Aile Cambon. Une suite dont elle choisit elle-même la décoration. Mais 4 ans plus tard, la guerre éclate. Les Allemands sont à Paris. Chanel doit fermer un temps le magasin de la rue Cambon et licencie tout son personnel. À 56 ans, la reine de la mode s'enferme dans sa suite, à quelques mètres seulement des chambres où se sont installés les Allemands qui ont réquisitionné le Ritz comme tous les autres palaces parisiens. Le Ritz, c'est celui que Göring choisit pour installer les bureaux de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. En revanche, l'hôtel est le seul des grands palaces parisiens autorisé à recevoir des clients. Coco Chanel peut donc garder sa suite. Pour Coco Chanel, la vie mondaine continue, comme la vie professionnelle d'ailleurs. La vie amoureuse aussi. Beaucoup lui reprochent son histoire avec le baron allemand, l'officier diplomate, espion également Hans Günther von Dinklage. Mais Coco Chanel ne s'en émeut pas. Elle considère qu'elle n'a pas à se justifier de sa vie privée. Elle aurait sans doute pu reprendre à son compte la formule d'Arletty restée célèbre « Mon cœur appartient à la France, mais mon cul n'appartient qu'à moi ». Elle aurait même dit « Mon cul est international », mais ça, je l'ai rajouté. Contrairement à d'autres, Coco Chanel ne passera pas devant un tribunal à la libération, mais part tout de même 8 ans en Suisse pour un exil volontaire, le temps de s'éloigner du tumulte des années d'épuration. Mais Mademoiselle Chanel n'a pas dit son dernier mot. Coco Chanel rentre en France en 1953 et s'installe à nouveau au Ritz. Elle a maintenant 70 ans, elle y retrouve ses habitudes et sa suite de 3 pièces, 2 chambres et un salon aménagé à son image. Un univers luxueux mais jamais tapageur où se mêlent des commodes chinoises, des paravents en lac, des canapés en dinde beige, des lampes de cristal. Et heureusement que Chanel a cet endroit pour se ressourcer parce que les temps sont durs. Ah, la reine de la mode a vieilli, la nouvelle concurrence dans ce milieu est féroce, à commencer par celle du jeune Christian Dior et de son new look. Mais Coco Chanel ne renonce jamais. On l'a dit, plus tyrannique que jamais, de plus en plus exigeante et isolée, mais elle travaille encore et continue de construire sa légende et son empire, collection après collection, avec des succès immenses comme sa pièce devenue iconique, son célèbre tailleur en tweed. Mais les années passent et elles sont cruelles. Dans l'Express, la journaliste Françoise Giroux écrit une phrase superbe à propos de cette vieille dame qui est devenue Coco Chanel. Elle est furieuse et droite comme un capitaine sur le pont d'un vaisseau qui sombre. Le dimanche 10 janvier 1971, coiffée, maquillée, tirée à 4 épingles comme toujours, Mademoiselle Chanel rentre de sa promenade. Elle salue le concierge du Ritz. Arrivée dans sa suite, elle s'étend sur son lit avant d'appeler Jeanne, sa femme de chambre, pour se plaindre qu'elle étouffe, qu'elle a mal là quelque part dans la poitrine. Elle fait quelques mouvements encore, prononce quelques derniers mots aussi. Elle murmure à Jeanne « Vous voyez ma petite, c'est comme cela que l'on meurt. » Et à 87 printemps, Coco Chanel s'éteint. Un dimanche, un jour de repos, elle qui détestait les dimanches. Mais elle meurt au Ritz et on fait difficilement plus élégant comme dernière étape avant la tombe. La sienne est toute sobre à Lausanne, une sépulture qu'elle avait choisi de dessiner elle-même avec une particularité. Il n'y a pas de dalle pour recouvrir la terre, au cas, disait Coco Chanel, où je voudrais ressortir.
Europe 1, historiquement vôtre.